Alors moi, je la ferais différemment. Je pense que le réseau apporte beaucoup. Et qu'on ne peut pas devenir associé sans la force du réseau aussi. Parce que on a, sinon autant monter sa boutique, en fait. Quand on est dans des plus grosses structures, c'est aussi parce qu'on a besoin des autres équipes, des autres bureaux. Après, voilà, il y a des associés qui utilisent, en fait, plus exactement, pour qui le cabinet est son propre client. En fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire qu'ils font grossir les clients du cabinet. Donc, il y a les chasseurs, il y a les cueilleurs. C'est deux mindsets différents. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Je pense qu'il nous faut les deux. Je pense qu'on peut être à la fois chasseur et cueilleur. C'est bien de passer beaucoup de temps pour aller chercher des nouveaux clients. Mais on oublie l'importance des clients que l'on a déjà et qu'il est important de les choyer aussi et de les fidéliser, de les développer parce qu'il y a toujours des gens qui vont frapper à leur porte. Et donc, c'est pour ça, je pense que, voilà, il y a des associés, en effet, qui développent beaucoup en interne. On a des associés qui exportent beaucoup dans d'autres bureaux aussi. Quand on exporte, on est content d'avoir des associés qui peuvent faire, en fait, ces dossiers-là. Donc voilà, on a cette chance chez Hogan à Paris d'être très exportateur aussi. Et en fait, on utilise beaucoup les autres bureaux. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des associés qui acceptent d'avoir d'autres clients qui ne sont pas les clients que eux-mêmes ont développés. Donc c'est pour ça, moi, je pense que c'est assez sain. C'est vrai que c'est très anglais en réalité de ne pas développer sa propre clientèle. Il y a beaucoup de la clientèle de la marque. C'est vraiment un modèle, en tout cas c'était. Ça l'est de moins en moins, mais pendant de nombreuses années, c'était le principe du modèle anglais, hein, qui était ce ne sont pas les clients des associés, mais ce sont les clients du cabinet. Et l'objectif est de faire grossir les clients du cabinet. Et c'était très intéressant. C'est vraiment un autre,
ouais,
notre mindset.
Et vous êtes positionné comment dans cette... Alors déjà, première question, vous avez dit tout à l'heure, il y a eu un moment où vous vous êtes posé la question, est-ce que je vais vers le partnership? Est-ce que c'est ce dont j'ai envie? Quand est-ce que cette question s'est posée et comment est-ce que vous l'avez abordée, cette question?
La question, elle se pose en réalité relativement tôt. Elle se pose, en tout cas moi je me la suis posée, je pense que je vais être en cinquième année, quelque chose comme ça, au moment de commencer à faire du BD. Ou même avant, mais vraiment c'est en cinquième année, un peu de choses, quatrième ou cinquième année où je me suis dit, mais faire du BD c'est bien, donc du business développement c'est très bien, mais pour faire quoi? Donc ça veut dire pour aller chercher des nouveaux clients, ou pour développer des clients, mais est-ce que c'est ce dont j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de devoir... J'ai pas envie de dire demander du travail, mais d'aller dehors pour aller chercher du travail. Est-ce que j'ai envie de, ou est-ce que je préfère attendre qu'on me nourrisse? Et c'est vrai que spontanément, j'avais pas du tout envie d'aller dehors chercher des clients, parce qu'en fait, ça veut dire se mettre en danger. Ça veut dire devoir aller voir des gens, leur demander ce qu'ils font, s'intéresser, leur finir à la fin par vraiment leur dire, bah écoute. J'aimerais bien te conseiller, j'aimerais bien... Est-ce que ce dossier-là, j'en ai entendu parler, est-ce que je pourrais te... Voilà, ou donne-moi un dossier. Et vraiment devoir demander du... Demander, parce que les premières fois, c'est pas vrai, nous sommes tout crus. C'est, j'aimerais bien dire qu'on attend et que on nous apporte un superbe dossier. Non, au départ, on y va, il faut aller dehors. Et ça met du temps, en fait. Et finalement, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais? Et donc moi, j'étais beaucoup plus au départ en mode service partner. Autrement dit, je vais faire grossir les clients que je connais. Donc, qui sont les clients existants de mon associé, de mon équipe, du cabinet. Et je vais les faire grossir. Parce que ça c'est se mettre en danger, mais un peu moins. Parce qu'on a commencé à avoir cette relation. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis finalement, je me suis dit, mais en fait, j'ai aussi envie d'y arriver par moi-même. Donc, je vais aller dehors et je vais y arriver.
Comment est-ce que vous vous y êtes prise pour déjà, ne serait-ce que... faire la première étape, c'est-à-dire service partner, je vais faire grossir les clients existants. Quel a été votre changement de posture à ce moment-là? Comment est-ce que vous vous y êtes prise de façon un petit peu concrète?
De façon très concrète, en discutant avec eux, en fait. Parce que c'est très facile de faire le chirurgien. Autrement dit, surtout dans notre métier de M&A ou de private equity, c'est on fait l'opération et une fois que le closing est fini, on est à closing dinner et puis voilà. Mais en fait, il y a toute la vie quotidienne de la société derrière, ou du fond. Et pour que les clients pensent à nous, il faut que ce soit automatique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On les appelle, on va déjeuner avec eux, on va prendre un café, on va s'intéresser à eux et aux problématiques qu'ils rencontrent. Également, on va s'intéresser en fait à ce que font nos associés en interne. Parce que un exemple très concret, une société. Donc on fait leur levée de fonds, on fait une série B par exemple, et on sait qu'ils vont vouloir se développer. Et on sait qu'ils ont une problématique, ils ont une problématique IP ou ils ont une problématique avec leurs salariés. Moi, c'est pas mon domaine, mais j'ai des associés qui sont très bons là-dedans. Et donc en fait, en discutant avec le client, je me rends compte que cette problématique, ça va être une problématique sociale. Donc je vais en parler moi avec mes associés en social pour avoir les premiers éléments de réponse. Et en fait, comme ça, après ça, on récupère cette partie du dossier aussi. Et en fait, on sert le client pour toutes ces problématiques, en fait, et pas uniquement pour sa levée de fonds. Et on devient leur conseil, et pas uniquement leur chirurgien cardiaque pour une petite opération. Et c'est comme ça qu'on commence à les faire à faire grandir, en fait, ces clients, en se rendant compte que voilà, ils ont le juridique imprègne au quotidien la vie des entreprises et la vie des fonds.
Mais c'est vrai que c'est pas toujours. Enfin,
j'ai pas dit que c'était facile.
Non, mais c'est délicat parce que le client, il a potentiellement aussi d'autres conseils avec qui il a l'habitude d'eux, et donc c'est un peu ce truc de ouvrir et en même temps, voilà.
Exactement. Et en fait, je pense qu'il faut toujours faire attention aussi à ne pas dénigrer ses confrères. Pourquoi ? Parce que la route est très longue. Et l'objectif n'est pas forcément de virer les conseils historiques. Parce qu'en fait, les conseils historiques, ils ont eux aussi bâti une relation de confiance. Et donc, parfois, c'est de travailler en binôme avec eux. Ça a pu arriver aussi sur des dossiers hein, où voilà, le conseil historique n'avait pas forcément les compétences pour arriver au développement d'après de la société, mais il avait l'historique. Et donc, en fait, c'est de travailler avec lui pour ne pas jeter à la poubelle tout le passé. Parce que dans une opération, on arrive, on relit la doc, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Alors que le conseil historique, il le connaît. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas virer le conseil historique. Et voilà, et de dire aux clients de manière extrêmement ouverte, je suis sûre que tu es très bien conseillé, mais si tu veux rencontrer notre équipe, si tu veux qu'on t'aide sur ces sujets-là, etc. Et après, ça se fait de manière de plus en plus naturelle. Donc, je dis pas que c'est facile, il n'y a pas de recette miracle. Je dirais que la vraie recette, c'est de s'intéresser à ce qu'ils font. Et s'intéresser à ce qu'ils font, ça va au-delà du juridique. C'est s'intéresser à leur business, à leurs problématiques.
Ça me fait sourire ce que vous dites parce que j'ai deux sociétés et il y en a une, Iris et Thémis, pour laquelle on lève des fonds en ce moment. Et je trouve qu'il y a, nos interlocuteurs, c'est beaucoup des avocats parce que c'est une entreprise de recrutement pour avocats. Et donc, on est en permanence avec des avocats. Et puis, de manière globale, moi, je suis en permanence avec des avocats. Et je trouve qu'en tant que chef d'entreprise, il n'y a rien de plus agaçant, et en fait, c'est même stressant, que des personnes qui te demandent « Ah ben, comment t'as structuré les choses ?» ou machin, « T'as fait ceci, t'as fait cela ?» Et puis, a priori, enfin, en tout cas, moi, enfin, nous, Iris et Thémis, on s'est toujours fait conseiller pour le juridique, quoi. Et ensuite, les gens te font douter sur ce qui a été fait par l'autre conseil. Et ça a été le cas pour la structuration qu'on a choisi de faire pour cette levée de fonds. Ça a été le cas sur d'autres trucs. Et en fait, en tant que client, c'est horrible. C'est horrible parce que on en arrive à cette espèce de truc de, en fait, finalement, je peux avoir confiance en personne, quoi. Enfin, parce que du coup, chacun y va avec sa sauce.
C'est ça.
Chacun a son approche, sa méthode, son truc, son machin. Et donc finalement, pourquoi est-ce que je devrais avoir plus confiance en la structuration proposée ? Voilà, exactement. Et d'un autre côté, il y a d'autres personnes qui ont l'air de faire comme ça. Mais bon, ça se trouve, c'est juste une habitude qui n'a jamais été challengée et qu'on pourrait faire mieux autrement. Mais et voilà, en tant que client, enfin, moi, c'est des trucs vraiment, ça me...
C'est crispant, je pense.
C'est très crispant. C'est très crispant parce que ça fait douter sur des trucs sur lesquels, en fait, a priori, on n'a pas voulu douter. C'est pour ça qu'on s'est fait conseiller, quoi.
Voilà,
et c'était pour
après,
se décharger mentalement.
Exactement. Après, ça peut arriver aussi de... On dit, moi, ça m'est arrivé en lisant un pacte de dire, mais pourquoi ça a été fait comme ça ? Et donc, on leur pose la question. Et en fait, généralement, c'était pas forcément ce qu'ils voulaient au départ. Mais c'est le fruit de négociation. C'est le fruit d'un, de compromis de part et d'autre. Mais il faut pas arriver en disant, mais t'as mal structuré ton deal. En fait, je suis d'accord avec vous. Généralement, ils sont conseillés. Donc, il y a une bonne raison pour laquelle c'est là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le remettre à plat si on peut, si finalement pour la société a évolué. Je pense par exemple aux clauses de Lever pour les fondateurs. C'est qui est quand même toujours un sujet très sensible, aussi bien pour les fondateurs que pour les fonds. Et c'est le résultat d'un compromis. Et donc voilà, il ne faut pas dire, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Oui, généralement, en fait, le fondateur, il sait ce qu'il a fait. Parce que le fondateur et le management, à la fin de la journée, c'est quand même eux qui décident. Nous, on est là pour conseiller, pour dire, ce qu'on pense que tu peux faire, on est là pour négocier. Mais la décision, in fine, c'est pas la nôtre. Nous, on donne vraiment les conseils, on dit, tout ça, je pense que tu peux y arriver, ça, je pense que tu n'y arriveras pas. Voilà la raison pour laquelle on te demande si et ça. Mais généralement, le client, il lit la doc, il sait ce qu'il a signé. Et donc, le challenger en disant, t'as été mal conseillé, c'est généralement pas génial. Après, ça arrive que ce soit dans l'autre sens, que ce soit le client qui vient nous voir en disant, j'ai pas été bien conseillé.
Oui.
Mais ça, c'est différent.
Mais c'est hyper différent. C'est hyper très, différent, c'est très différent que avoir fait des choses et quelqu'un qui vient et qui distille du doute sur ce qui a été fait. Parce que en plus, comme entrepreneur, il y a quand même à un moment le besoin d'avancer, c'est-à-dire de mettre un sujet derrière soi. Il y a un choix qui a été fait et maintenant on avance sur d'autres trucs. Et donc, quand quelqu'un vient, mais vous auriez peut-être pu, moi j'aurais plus vu les choses comme ça, etc. etc. Et là, on a un peu là, genre, oui, enfin,
oui, mais il y a une bonne raison. Et puis en fait, voilà, maintenant c'est comme ça, et on fait avec. Et donc, est-ce que tu peux m'aider à avancer sur cette base-là ou pas? C'est tout, en fait. On n'est pas là pour tout renégocier en permanence et réinventer la roue en permanence. C'est pas la peine. Parce que je suis d'accord avec vous. En fait, il faut pas que le juridique ou l'avocat. En fait, il faut que l'avocat soit là pour soulager l'entrepreneur ou le fond. On n'est pas là pour rajouter du brouhaha et vous empêcher de faire votre business. À la fin de la journée, quand il y a une levée de fonds, les fonds, ils sont levés pourquoi? Pour que le business se développe. Si vous passez 150% de votre temps à gérer des questions juridiques et des avocats, le business, il va pas aller bien, et là, personne sera content. Et donc, en fait, on est là pour, au contraire, vous soulager, et pas du tout là pour en rajouter. Non, mais bon, après, ça, c'est facile, hein, mais...
La pratique est voilà.
C'est pas toujours évident.
La différence, voilà, bien exactement. Sûr. Et donc cette discussion est partie de ma première question qui était comment est-ce que vous vous y étiez prise pour développer l'aspect service partner. Et puis ensuite vous dites bon il y a un moment où quand même je me suis dit allez je vais y aller.
Je me suis botté les fesses.
Voilà, vous vous êtes botté les fesses.
Clairement en fait c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je me suis dit en fait, j'avais eu un complexe par rapport à d'autres de mes associés ou des autres collaborateurs qui étaient à mon niveau à l'époque, c'est que moi, j'avais pas fait d'école de commerce. Moi, j'avais fait mon double diplôme droit français, droit espagnol. J'étais partie un an à l'LM à Londres. Et aussi, j'ai pas me rajouter une école de commerce en plus. Là, c'est bon, j'ai fait mes études, j'en ai marre. Et donc, je me suis dit, mais en fait, le problème, c'est où est-ce qu'ils sont les gens? Comment est-ce que je vais les rencontrer? J'aime pas aller à des cocktails, j'aime pas me mettre en danger comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis dit, ça va être plus simple, je vais rester, je vais développer ce qui existe en interne, ce qui est très bien. Et puis, il y a un moment où c'est un peu frustrant, parce qu'on se dit, j'aimerais bien moi aussi voir si j'en suis capable. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Pas grand-chose. En fait, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai à perdre qu'on me dise qu'on me réponde pas. J'ai à perdre qu'on me dise non. Mais en soi, à part dans ce cas-là une blessure d'ego, j'ai pas grand-chose à perdre. Et donc, je me suis dit, je vais quand même essayer d'y aller. Et je vais essayer de me mettre en danger et d'aller voir des personnes que j'ai pu croiser dans des dossiers. En fait, on commence petit. Donc, généralement, je suis pas allée voir au départ des gens que je n'avais jamais vus. Ça va être des gens que j'ai pu croiser sur les dossiers. Et c'était l'avantage, en fait, avant le Covid, on faisait des closings physiques. Et donc, on rencontrait les gens. Et donc, c'est là où on discutait. Et en fait, du fil en aiguille, ces gens-là sont devenus des clients. Avec les closings DocuSign, c'est plus compliqué parce qu'en fait, on est tous à nos ordinateurs. Donc, on a moins de réunions physiques. Mais c'est vrai que les réunions physiques pour ça, ça nous forçait à aller discuter avec les gens et avec des gens qui n'étaient pas nos clients, qui n'étaient pas forcément la cible, mais qui pouvaient être des investisseurs historiques, qui pouvaient être des co-investisseurs. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre en danger. Et puis après ça, je me suis dit, bah voilà, je vais y aller. Et ça demande du temps. En fait, j'ai envie de dire que ce que vous m'avez posé la question, quand est-ce que j'ai commencé? Et en fait, j'ai commencé tôt parce qu'on m'avait dit, tu verras, ça met entre 3 et 5 ans, entre le moment où tu as les premiers signaux avec un client ou avec un prospect potentiel et le moment où tu arrives à le transformer en étant un client. Ça met du temps. Et donc, c'est venu comme ça. Et puis après ça, en fait, c'est aussi en ayant discuté avec les gens qui étaient à mon niveau, en fait, chez les clients. Parce que eux aussi ont bougé. Et donc, ils pouvaient être dans un fond. Et puis après ça, ils sont dans un autre fond. Et puis, au bout d'un moment, eux-mêmes deviennent les décisionnaires. Donc, ils deviennent des clients.
Mmh. Ce temps, justement, que ça a pris, on vous avait annoncé entre 3 et 5 ans pour que la graine devienne fleur. Est-ce que c'est effectivement le temps que ça a pris?
Je pense en moyenne, ouais. C'est pas toujours entre 3 et 5 ans. Mais je dirais entre les premiers efforts que l'on met à faire du business développement, etc., et les premiers fruits qu'on récolte. Après, c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire que plus on en fait et plus, malgré tout, c'est un petit monde. Et donc, les gens se connaissent et les entrepreneurs parlent entre eux et les fonds parlent entre eux. Et en fait, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable que lorsque c'est un client qui nous recommande. Donc, en fait, on a quelqu'un qui nous appelle ou alors un client qui envoie un email en disant j'ai tel fonds ou telle personne que je connaissais qui cherche un avocat, je t'ai recommandé. Et voilà. Et en fait, après ça, il faut pitcher. Donc, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Mais en fait, au fur et à mesure, plus on grandit et plus on conseille de gens, et plus après ça va être plus simple. Mais au départ, en effet, je vais dire, ça met quelques années, oui. Donc le conseil, c'est vraiment de commencer tôt, en fait, et de commencer avec les gens de son niveau. C'est-à-dire que quand on est mid-level, ça sert à rien d'essayer d'aller récupérer un client du CAC 40 tout seul. Parce que généralement, ils ont beaucoup de gens qui sont
en train de les courtiser.
Voilà. Et qui frappent à leur porte. Et donc, dans ces cas-là, c'est commencer à son niveau, en se faisant des cafés, etc., avec les futurs décisionnaires.